Bonsoir, l'actualité des Alpes du Sud de ce jeudi 14 octobre est à la une. Le squat chez Roger à Gap évacué ce matin. Le bâtiment était occupé illégalement depuis l'été 2020. Des CRS sont intervenus dans le calme selon la préfecture des Hautes-Alpes. Des informations contredites par les occupants de chez Roger. Selon eux, un migrant de 19 ans serait aux urgences blessé au visage par l'ouverture d'une porte. Jean-Baptiste Lemoine est venu inaugurer le congrès des maires des Alpes de Haute-Provence à Sisteron. Le secrétaire d'État en charge du tourisme a voulu rassurer. Cet hiver, on skie, a une nouvelle fois martelé le secrétaire d'État. Quant au pass sanitaire pour les remontées mécaniques, il ne faut pas s'interdire d'y avoir recours, même si pour l'heure, ce dispositif n'est pas d'actualité. Un verger solidaire aux abords de l'A51, il fête ses 10 ans cette année. 750 arbres y poussent, fruit d'un partenariat entre Vinci et l'association Les Jardins du Buech. Le Tour de France fera la part belle au Briançonnais en 2022. Le parcours a été dévoilé ce matin à Paris. Nous rejoindrons Christophe Lourenço en fin de journal. Le squat chez Roger à Gap évacué ce matin. Ce bâtiment, propriété du maire de la ville, situé cours du Vieux-Moulin, était occupé illégalement depuis l'été 2020. Des migrants y étaient accueillis. En janvier dernier, le tribunal judiciaire saisi par Roger Didier avait ordonné aux occupants de quitter les lieux dans un délai de 6 mois. En juillet, un huissier avait délivré un commandement d'expulsion. Ils avaient alors 2 mois pour partir. Devant leur refus, l'huissier a demandé à la préfecture de recourir à la force publique, ce qui a été accordé. Ce matin, ce sont donc des CRS qui sont intervenus dans le calme, selon la préfecture des Hautes-Alpes, alors que 6 hommes majeurs étaient encore présents sur place. Un examen de leur situation administrative doit être mené. Une solution d'hébergement temporaire a été proposée. Des informations contredites par les occupants de chez Roger. Selon eux, un migrant de 19 ans serait aux urgences, blessé au visage par l'ouverture d'une porte. Il y aurait également, selon les occupants, 25 personnes actuellement à la rue sans solution d'hébergement. Les demandes de mise à l'abri proposées en septembre dernier ne seraient pas, selon eux, adaptées puisqu'elles n'auraient concerné que des demandeurs d'asile. Ce soir, la préfecture indique dans un nouveau communiqué que chaque occupant a eu la possibilité de rencontrer les agents de la DDET-SPP pour une prise en charge sociale, mais aussi des agents de la préfecture pour une analyse individuelle de leur situation administrative. 4 personnes n'ont pas souhaité de prise en charge. 2 demandeurs d'asile en situation régulière sont pris en charge par l'État au titre de l'hébergement d'urgence. Concernant la personne blessée, les services de l'État précisent ce soir que les forces de l'ordre ont découvert, je cite, une personne présentant une légère blessure et des signes de maladie. L'intéressé a refusé une prise en charge par le SDIS ou une hospitalisation, toujours selon la préfecture. 6 ans de prison, dont 1 avec sursis probatoire après des coups de feu à Gap. C'est la peine dont écope un homme de 24 ans reconnu coupable hier par le tribunal de Gap. Pour rappel, une fusillade avait eu lieu en plein centre-ville de la capitale douce en juillet dernier. Elle avait fait 2 blessés, 2 hommes de 20 ans. 1 avait été touché à l'épaule, l'autre à la bouche. Une enquête pour tentative de meurtre avait été ouverte. Les faits avaient ensuite été requalifiés en violence volontaire aggravée. Nous vous en parlions hier, 10 de gendarmes étaient mobilisés ce mercredi pour retrouver un homme secteur de Saint-Étienne-les-Orgues, Reveste-Saint-Martin. Parti aux champignons, la famille de cet octogénaire était sans nouvelles depuis la mi-journée. Elle avait contacté les secours. Un maître chien du PGHM de Josy avait été envoyé sur place. C'est finalement le chien qui a retrouvé la victime saine et sauve hier soir vers 20h. Tout est bien qui finit bien. Il est venu réaffirmer le soutien de l'État au maire Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, a inauguré ce jeudi le congrès des maires des Alpes de Haute-Provence à Sisteron. L'occasion pour le ministre de revenir sur la crise sanitaire avec des édiles souvent en première ligne, alors que certains prenaient tout juste leurs fonctions. 82 maires sur les 198 basalpins ont d'ailleurs été élus en 2020. De jeunes maires qui ont dû faire face à de multiples défis. Parmi eux, la fermeture des remontées mécaniques et une année blanche pour les stations. Il fallait donc rassurer ce jeudi alors que plus de 450 élus du département avaient fait le déplacement. Cet hiver, Onski a une nouvelle fois martelé le secrétaire d'État, comme il l'avait fait il y a quelques jours au congrès des domaines skiables de France à Chambéry.
Cet hiver, c'est ouvert, c'est ça l'idée. Hein. C'est Clermont-Tay Mécanique qui, l'année dernière, n'avait pas pu ouvrir parce que nous n'avions pas la vaccination, parce que nous n'avions pas le pass sanitaire à l'époque, vont pouvoir ouvrir, c'est d'ailleurs le cas, dès le week-end prochain. Et je peux vous dire que d'ailleurs, les réservations montent vite et fort. En tous les cas, c'est tous les signaux que j'ai de la part des professionnels de la montagne française. Aujourd'hui, on est dans le droit commun, c'est-à-dire que à ce stade, le pass sanitaire n'est pas exigé sur les remontées mécaniques. Il l'est, par exemple, si vous êtes dans un restaurant, dans une station, il est là où il est imposé sur les activités dans lesquelles il a été mis en place sur les territoires nationaux. Maintenant, vous savez, il faut être très vigilant, très prudent. Le pass sanitaire, c'est ce qui a permis de laisser ouvert un certain nombre d'activités cet été, malgré le variant Delta. Et donc, il ne faut pas s'interdire d'avoir recours à cet outil, le cas échéant, si ça peut permettre de sécuriser la saison.
Et Jean-Baptiste Lemoine a indiqué qu'il reviendrait dans quelques semaines pour un déplacement dédié notamment au thermalisme à Gréoux-les-Bains. Le congrès des maires qui a aussi été l'occasion pour la présidente du département de faire des annonces. Nous allons renouveler l'ensemble des contrats territoriaux avec 14 millions d'euros répartis équitablement, a indiqué Eliane Bareille. Le dispositif du fonds d'aide aux communes va être renforcé pour être plus efficace. Enfin, la création d'un fonds stratégique plus souple, plus puissant. 1,5 million d'euros seront mobilisés sur 3 ans. De plus, une subvention de 8 000 euros pour l'association des maires sera proposée lors de la prochaine assemblée. Une délégation du Sénat tchèque sera reçue demain dans les Alpes de Haute-Provence. Ses membres de la commission permanente pour le développement rural seront accueillis dès 9h30 par Eliane Bareille, la présidente. Ces 7 sénateurs, dont le vice-président, sont accompagnés d'une experte économique et d'une traductrice. L'objectif est de leur présenter des activités qui répondent aux enjeux du changement climatique et de la transition énergétique. Un partage des savoir-faire qui les mènera au Mets pour visiter la centrale de panneaux photovoltaïques avant de se rendre à Roumoules pour visiter la station de traitement. Je vous en parlais dans les titres. 750 arbres fruitiers d'une vingtaine de variétés différentes. Ce verger au bord de l'A51 qui se veut solidaire fête ses 10 ans cette année. Un anniversaire fruit du partenariat entre l'association Les Jardins du Buech et Vinci Autoroute. La collaboration doit encore se poursuivre durant 20 ans. Dans ce partenariat, Vinci s'engage sur des projets environnementaux. Quant à l'association, elle travaille, elle, sur l'insertion professionnelle. Une mission qu'elle mène déjà auprès d'une vingtaine de salariés. Et les défis ne manquent pas pour les années à venir, souligne Harry Keschenmeyer, directeur des Jardins du Buech.
Le défi qui se présente à nous, c'est de pouvoir évoluer en fonction des changements climatiques qui s'opèrent. Hein. On a des changements climatiques qui font qu'on a des récoltes qui gèlent, hein, comme tous les autres arboriculteurs. Donc il va falloir un peu innover et trouver des solutions pour éviter ce gel. Donc ça va permettre aussi aux salariés qui sont en insertion chez nous de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le verger, comment on doit intervenir peut-être sur la surveillance lorsqu'il y a la floraison et qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place comme matériel supplémentaire pour éviter de geler trop souvent. Et comme ça touche absolument tous les autres arboriculteurs du secteur, les gens qui vont travailler chez nous pour apprendre tout ça, pour apprendre l'arboriculture chez nous, vont pouvoir à l'issue amener les techniques qu'ils auront apprises chez d'autres arboriculteurs pour lesquels ils travailleront.
Notez que Vinci Autoroute a investi près de 150 000 euros en achetant le terrain, les arbres, les machines ou encore les outils. 10 ans plus tard, il est désormais autofinancé grâce à la vente des produits avec un chiffre d'affaires moyen de 20 à 25 000 euros par an.
Alpe 1 Sport. Alpe 1 Sport.
Le Tour de France fera la part belle au Briançonnais en 2022. Le parcours a été dévoilé en fin de matinée au Palais des Congrès à Paris. Du 1er au 24 juillet, les routes françaises vont être une nouvelle fois rythmées par les coureurs de la Grande Boucle. Christophe Lourenço.
À l'instar de l'ambiance mise par les supporters néerlandais au niveau du virage numéro 7 de l'Alpe d'Huez, la bonne humeur sera sans doute également au rendez-vous de la 11e étape de ce Tour de France qui sera jugée au sommet du col du Granon le 13 juillet prochain. Il a fallu attendre 36 ans pour que la Grande Boucle revienne sur cette ascension mythique du massif des Serres qui pointe à 2413 mètres d'altitude avec 11,3 km d'ascension à 9,2%. Une arrivée mythique donc sur la commune de Saint-Chaffré qui avait vu en 1986 Bernard Hinault porter pour la dernière fois de sa carrière le maillot jaune qu'il avait pourtant amené à 5 reprises à Paris. Natif de Briançon et manager général d'AG2R Citroën Team, Vincent Lavenu était sur le bord de la route avec ses enfants et espère que ses coureurs pourront lui offrir un beau cadeau pour ce passage de la Grande Boucle à la maison.
Ce serait un peu un rêve pour moi que de pouvoir voir remporter un de mes coureurs l'étape là-haut, évidemment, ne serait-ce que par rapport à l'histoire de l'équipe, à mon histoire, à l'histoire du Tour de France et ce passage qui sera un moment très fort. Si effectivement j'ai un de mes coureurs qui remporte cette étape, il me fera un joli cadeau ce jour-là.
Cette étape de 149 km qui partira d'Albertville afin de poursuivre cette semaine alpestre du Tour n'est pas qu'un défi sportif pour les différents coureurs à l'instar du haut alpin d'adoption Rudy Moller qui connaît très bien cette montée, mais aussi une prouesse technique pour les services du département qui doivent préparer cette arrivée quelque peu particulière. Marcel Cana, vice-président du conseil départemental en charge des routes.
Une arrivée au col du Granon, c'est à peu près identique à une arrivée sur les Champs-Élysées à Paris. C'est-à-dire qu'il faut autant de moyens matériels et humains au col du Granon que ce qu'il y en a sur les Champs-Élysées. Donc c'est quand même une prouesse. Il y a tout un enjeu routier, il y a un enjeu sécurité. Faire monter des gros véhicules au col du Granon, tous les aménagements qui vont être faits, c'est des aménagements mineurs. La route est relativement en bon état, il y a quelques déformations, il y a quelques virages à élargir.
Bien plus habitué des honneurs du Tour de France en étant pour la 35e reprise ville-étape, un siècle après la toute première fois, la ville de Briançon sera la capitale du vélo à l'occasion de la fête nationale, avec cette étape de 166 km entre la cité Vauban et la légendaire Alpe d'Huez, une énorme fierté pour le maire Arnaud Murget qui n'avait jamais caché son intention de ramener la Grande Boucle dans sa commune dès sa prise de poste.
Ce sera la fête du vélo pendant tout un mois à Briançon et dans le Grand Briançonnais pendant tout le mois de juillet de l'année prochaine. On y travaillait avec Christian Prudhomme depuis le premier jour du mandat. On lui avait dit qu'on mettrait tous les moyens, qu'on ferait tout ce qui était en notre possible pour faciliter le retour du Tour. C'est fait. Le maire que je suis et toute l'équipe municipale, on n'a pas de mots parce que c'est merveilleux. C'est que du bonheur.
Les Hauts-Alpins et plus spécifiquement ceux du nord du département sont une nouvelle fois gâtés par la plus grande course cycliste au monde avec deux étapes qui s'annoncent déjà d'anthologie à l'instar de celle de 1986. Un Briançon Alpe d'Huez au tracé identique que celui de 2022 qui avait vu la victoire de Bernard Hinault main dans la main avec son successeur au palmarès et coéquipier, l'américain Greg LeMond.
Merci Christophe, le détail est à retrouver sur alpe1.com. Coup dur pour les rapaces de Gap qui perdent l'un de leurs meilleurs éléments. Le défenseur de 28 ans, Raphaël Faure, doit mettre un terme à sa saison suite à une blessure. Déjà fini pour moi, mais beaucoup de belles choses arrivent pour 2022, réagit le joueur.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.